Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Pour une formation intégrale de la jeunesse congolaise.
Pour la promotion des valeurs humaines, sociales, religieuses et culturelles.
Pour une jeunesse consciente, engagée et protagoniste du présent et du futur.
Suivez chaque samedi à 15h30.
L'émission Jeune pour Jeune
sur les ondes de Radio Maria
89.9 MHz.
Chers jeunes, frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, bonjour. Nous avons une grande joie de nous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, c'est un sujet intéressant qui cadre bien avec ces temps de festivités de fin d'année. Nous voulons parler des jeunes et les festivités de fin d'année. Nous voulons bien accompagner les jeunes à prendre de bonnes décisions durant ces moments pour qu'ils ne déraillent pas. Et nous avons la joie ici au studio d'être avec des gaillards. Oui, ce sont des gaillards. Nous avons l'abbé Taylor, prêtre du diocèse de Lolo, si je ne me trompe pas.
Luebo.
De Luebo et étudiant à l'Université catholique du Congo. Il est un master en dogmatique à l'UCC. Monsieur l'abbé, bonjour et bienvenue.
Merci, frère.
Et il y a la sœur aussi, la sœur Dorothée. Ma sœur, s'il vous plaît, c'est mieux que vous puissiez dire à nos auditeurs. Dites-leur vous-même, votre congrégation encore.
Bon, je suis religieuse du Sacré-Cœur de Jésus.
Merci ma sœur, bienvenue.
Merci.
Et nos deux infatigables pauliniens, le frère Michel Nzambi et le frère Ruffin, sont responsables de la revue L'Avenir des Jeunes. Merci beaucoup, merci à vous nos auditeurs. Et vous pouvez interagir avec nous, soit par un message WhatsApp ou un message normal, ou même par un appel. Vous êtes libre. C'est au numéro 085 57 28 211. 085 57 28 211. Sans plus tarder, je me tourne vers la sœur. On dit en anglais Lady First, les femmes d'abord. Ma sœur, ce sont les vacances. J'imagine que même chez vous là-bas, l'internat, les élèves sont en vacances. Alors, en tant que religieuse, vous êtes éducatrice. D'une certaine manière, vous êtes aussi parent. Et d'après vous, comment est-ce que les heures de sortie ou les possibilités de sortie auprès de parents, tuteurs, éducateurs peuvent être négociées? C'est-à-dire... comment les jeunes doivent-ils négocier leur sortie auprès de parents ou de leurs encadreurs?
Merci. Les jeunes ou les enfants qui sont déjà en vacances,
oui.
Être en vacances ne veut pas dire qu'on est totalement libre. Parce que déjà à l'école, on donne des TP, des exercices à faire à la maison. Alors comment négocier pour les heures de vacances? On est libre pendant les vacances,
oui.
Mais pas totalement libre.
Pas totalement libre
parce que oui. Si on veut sortir, les jeunes, si vous voulez sortir, il faut demander. Alors comment négocier avec les parents? Vous dites d'abord là où vous allez.
D'accord.
Il faut signaler parce que vous ne pouvez pas sortir comme ça.
Oui.
Les parents sont encore responsables de la famille.
Oui.
Alors, avant de sortir, il faut demander la permission, négocier, dire là où vous allez, qu'est-ce que vous allez faire et quand est-ce que vous allez rentrer. C'est une manière de faire confiance aux parents et de demander aussi aux parents de faire confiance en vous, comme jeune.
Merci. Monsieur l'abbé, vous allez, mais Monsieur l'abbé Taylor, par rapport à la réponse de la sœur a dit une très bonne chose là. Je voudrais quand même que vous puissiez expliciter aussi par rapport à la réponse de la sœur, parce qu'il y a des jeunes qui suivent, qui voudraient vous entendre pour la première fois ici, j'imagine. Alors, pourquoi c'est important, d'après vous, M. l'abbé, de dire aux parents ou aux encadreurs où l'on va. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent se dire, ah, si je veux faire la fête à Cheta, ah, pourquoi dire à papa, pourquoi dire à maman, mais on risque de me suivre là, peut-être on viendra me prendre là. Pourquoi c'est important de dire aux parents ou aux encadreurs où l'on va peut-être s'amuser avec les amis?
Merci. J'aimerais commencer par saluer les auditeurs de l'émission Jeunes pour Jeunes, vous dire merci à tous mes co-débatteurs. Je suis honoré d'être dans ces studios pour ma première fois, le studio de la Radio Maria. La question, je l'ai bien suivie et j'aimerais partager, corroborer même le point de vue de la sœur Dorothée. Et selon lesquels nous devons, nous, je me mets à la place des jeunes, négocier nos sorties, n'est-ce pas, par la demande. Et ça veut dire ceci, qu'il faut définir en fait là où on part, là où on s'y rend. C'est vrai, ce sont des vacances. Vacances ici entendues comme un temps de détente, un temps de soulagement et tout petit peu et tout ça. Mais être en vacances, ça ne veut pas dire qu'on échappe à l'autorité de ceux qui ont un œil sur nous. Alors, ça vaut son pesant d'or. Il est obligatoire, impérieux, n'est-ce pas, de toujours dire, n'est-ce pas, aux parents où on va, parce que tous nos parents, ceux qui veillent sur nous, nos éducateurs en général, ils veulent notre bien. Ils ne voudraient pas nous exposer pour que si on se retrouve quelque part, l'on puisse tomber à un incident et un accident. Exactement. Peut-être dont eux-mêmes ne seraient pas responsables. Voilà, et de manière succincte, ce que je pourrais ajouter, en corroborant même ce que la sœur
venait dire. Merci beaucoup, M. Labbé. C'est-à-dire, à tous ces jeunes qui nous suivent, quand on vous demande où vous allez pendant ce temps, c'est pas parce qu'on veut vous contrôler, ou on est gendarme, tous on va être derrière vous, tout ça, non. Mais il se peut que vous ayez des problèmes. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Ou peut-être que vous disparaissez. Et on doit toujours savoir où commencer si on doit vous chercher. Et en cas de problème, les gens doivent savoir. Ils doivent avoir des repères, en fait, pour bien mener des enquêtes et pour votre bien. C'est-à-dire, c'est toujours important de faire signe où vous allez. Comme ça, on sait bien vous suivre, on sait bien vous accompagner. Frère Ruffin, vous êtes religieux, figurez-vous que, bon, comme religieux aussi, parent, éducateur, comment vous conciliez tolérance, confiance et surveillance dans un contexte de festivité? C'est-à-dire dans les contextes de festivité de fin d'année, comment peut-être établir cet équilibre-là entre accorder la liberté aux jeunes, mais aussi veiller à ce qu'ils n'en abusent pas? Comment?
Voilà, merci pour la question. Au fait, moi, je voudrais dire que l'éducation ne commence pas pendant les festivités.
Mmh, ça, c'est bien.
C'est-à-dire que les jeunes ont déjà eu à recevoir de quoi? De l'éducation tout au long de leur jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pense pas que cette fête ici serait la première, peut-être pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Oui. Alors, on peut se référer aux expériences passées, voir comment ils ont festoyé l'année passée ou les années antérieures. Et à partir de là, voir ce qu'ils peuvent corriger cette année et ce qu'ils peuvent encore intensifier. C'est autant dire que les parents, vu les expériences, ils connaissent déjà leurs enfants. Ils savent là où ils peuvent toucher. Ils savent parmi les enfants en qui on peut faire confiance et confier le reste des jeunes. Parce que ce n'est pas toutes les sorties où on doit amener les parents. Alors, parmi les enfants, il y a la possibilité de responsabiliser un des leurs pour veiller à la surveillance, mais aussi pour la sécurité du reste. C'est pourquoi je demanderai aux parents qui nous suivent, mais surtout aux jeunes, de savoir ne pas se disperser, ne pas penser que c'est la fin de temps, c'est la fin du monde, donc je dois fêter, je dois me réjouir jusqu'à perdre même les valeurs les plus primaires. Alors, savoir dire que aujourd'hui je dois fêter, mais demain aussi m'attend. Aujourd'hui j'ai fête, mais demain m'attend, et à côté de moi il y a quelqu'un qui ne fête pas. Alors trouver cet équilibre serait une bonne chose. Donc la force viendrait d'abord de la personne elle-même, et après cela de son environnement. Si la personne est incapable de trouver cet équilibre pendant ces temps de fête, l'environnement peut l'aider, donc ceux qui nous suivent peuvent aider ceux-là qui chercheraient à se disperser dans leur façon de festoyer.
Merci. Frère Michel, les jeunes qui sont habitués à vous suivre réclament ici, on veut suivre les frères Michel. Dites quand même quelque chose par rapport à la question précédente, oui.
Bon, je voudrais quand même par ici faire une petite différence entre les jeunes qui sont déjà responsables, c'est-à-dire qui n'ont pas, disons, les parents qui veillent sur eux, et ces jeunes-là qui sont sous tutelle des parents ou responsables. Pour les jeunes qui sont déjà responsables ou qui sont déjà avancés en âge, je crois que la responsable et la conscience seraient beaucoup plus importantes, non, dans ces sens ici. Parce que, bon, déjà, vu l'âge, au moment où vous êtes déjà responsable, prenons l'exemple de ces jeunes-là qui sont à l'université.
Qui se gèrent seuls.
Effectivement. Oui. Alors, je crois qu'être beaucoup plus responsable pendant ces moments, ça serait intéressant. Parce que, bon, c'est vrai que les fêtes, il y en a toujours. Oui. Et on en aura toujours. Alors, se perdre pendant ces temps, et c'est dire que, bon, le moment est arrivé, il faut vraiment profiter de la vie. Avec cette conception-là qu'on a de profiter de la vie, dans le sens où il faut exagérer, boire, manger comme on veut. Je pense qu'il faut quand même une certaine manière de faire qui serait beaucoup plus responsable. Et pour ces jeunes-là qui sont sous tutelle des parents, qui sont à la maison, je crois que les parents, comme c'est que le frère Ruffin a dit, les parents connaissent bien leurs enfants et ils savent comment est-ce qu'ils se comportent. Au moment où les parents connaissent déjà les comportements de leurs enfants, je pense que si un enfant est indiscipliné, si un enfant est turbulent, le mieux à faire, c'est De l'accompagner dans ses sorties, non? Si l'enfant veut sortir, et surtout pour dans la soirée, s'il faut le dire ainsi, le mieux à faire, c'est d'être avec l'enfant. Mais au moment où vous savez que l'enfant est quand même responsable, il est quand même sage, il sait quand même se contrôler, alors, vous lui faites un peu confiance, non, dans ces sens-là. Parce que, bon, du moins, vous êtes un peu sûr que vous lui accordez une certaine liberté. Et lui, à son tour, il ne va pas quand même abuser, non, de la liberté qu'il lui a accordée de la part des enfants.
Vous lui faites tellement confiance. Oui.
Bon, un peu de confiance dans ce sens-là, parce que, bon, oui, parce que vous dites que, bon, nous connaissons quand même notre enfant, nous savons quand même comment est-ce qu'il se comporte. Alors, à la place de toujours sortir avec lui, vous pouvez quand même le laisser gérer sa vie seul de cette manière-là, pour voir un peu si l'enfant a grandi et qu'il est devenu sage. Je crois qu'on peut un peu comprendre ça dans ce sens-là.
Merci. Monsieur l'abbé Taylor, aujourd'hui, il y a une manie, une habitude chez les jeunes. On pense que fêter, bien fêter, c'est s'enivrer. On pense que quand on n'a pas bu de façon exagérée, on n'a pas bien fêté. Donc, on doit vraiment sentir que non, l'esprit, la tête là, ça bouge. Alors, on se dit non. On a bien fêté. Quand on a mélangé whisky, le toko, un tembo, on a mélangé là, on a bien fêté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? Parce que certainement, il y a des jeunes qui préparent déjà ce genre de, des choses. Est-ce que bien fêter, pour bien fêter, il faut nécessairement s'enivrer? Quel message, hein? quel message constructif ou instructif à nos jeunes qui nous suivent par rapport à ça?
Merci. Je vais d'abord commencer par dire ceci, que fêter peut aussi impliquer manger et boire. Hein. Je suis théologien, je vais prendre Jean, le deuxième chapitre, n'est-ce pas, de Jean, de l'évangile de Jean, et le premier miracle de Jésus.
Il transforma l'eau.
Les gens ont mangé, ils ont bu. Mais quand quelque chose a manqué, du genre boire pour les breuvages, alors c'est tout le monde qui s'est plaint. C'est-à-dire boire, c'est très important, c'est pas mauvais. Mais l'excès, n'est-ce pas, dans ces breuvages, l'excès, c'est tout ça qui a condamné. Nous sommes dans un monde où la tendance à la toxicomanie devient très grande, et la tentation aussi, hein, ça devient très grand. Les gens s'enivrent même à l'occasion de rien. À côté de la boisson que l'on prend à la fête qui nous enivre, mais il y en a aussi, hein, qui des jeunes, n'est-ce pas, qui s'enivrent du jour le jour. Chaque jour, eux, ils sont toujours ivres. Déjà le matin, vous voyez quelqu'un, n'est-ce pas, en train d'être déjà ivre. On se demande quelle sera la journée. Mais en ce qui concerne surtout nos fêtes, je dirais, fêter ne veut pas dire s'enivrer. Mais fêter, ça veut dire se réjouir, n'est-ce pas? Se réjouir dans un équilibre total, c'est-à-dire ne pas faire de trop, mais aussi prendre plaisir comme vous pouvez, n'est-ce pas? Si vous savez qu'à votre niveau, vous êtes capable de prendre une bière, si vous en prenez deux, ça va vous poser problème, ne prenez pas. Soyez un peu modéré, équilibré, mais réjouissez-vous comme vous pouvez, parce que c'est la fête, c'est pas mauvais. Mais que cette fête-là ne puisse pas nous conduire les jeunes, n'est-ce pas, à certaines folies, à la toxicomanie, à l'alcoolisme. C'est des vices qui ne peuvent pas construire la personnalité juvénile et qui ne peuvent pas les aider à grandir, à devenir des gens sur qui compter, sur qui l'Église, sur qui la société peut compter.
Merci. Merci. Ma sœur, excusez-moi, vous prenez les lotoko? Non.
non, je ne prends pas.
Alors, vous pouvez peut-être renchérir, non, l'idée de l'abbé. Est-ce que fêter, c'est s'enivrer nécessairement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui ont peut-être déjà payé, qui ont déjà des cartouches? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Bon, ici, on n'interdit pas de boire, mais boire avec mesure.
Oui.
Parce que quand on boit en excès, si je peux dire comme ça, il y a quelque chose qui manque en nous. On perd un peu de la valeur.
Oui.
Parce que quand on boit au-delà de nous, on se connaît et puis on boit au-delà. Et on n'arrive pas à reconnaître les gens. J'ai vu des gens, en tout cas, quelqu'un qui boit et puis jusqu'à perdre connaissance et même perdre la vie.
Oh.
Alors quand vous buvez comme ça, chers jeunes, il faut savoir que je bois, mais avec modération.
Avec modération.
Donc.
Chers jeunes,
faut boire, mais avec modération.
La sœur n'interdit pas. La sœur n'interdit pas de boire, mais avec modération. Frère Michel, vous êtes apôtre communicateur. Votre rôle comme Paulinien, c'est d'évangéliser par le média. Et certainement, en fêtant, il y a ces jeunes-là qui postent, qui affichent leur manière de fêter, tout ça, qui envoient peut-être aux autres des vidéos, des photos, de messages. Et quand on n'est pas dans la même condition et quand on n'est pas fort, ça peut frustrer. Ça peut toujours influencer positivement ou négativement. Alors, comme expert en communication, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce jeune-là qui peut-être n'ont pas la même possibilité que d'autres, mais qui voient comment est-ce que les autres se réjouissent à partir peut-être des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil?
Bon, je crois que dans le monde de la communication, il est toujours souhaitable de mettre sur le média des choses qui édifient dans ces sens-là. Alors, pour les jeunes qui veulent bien exposer ou sinon mettre à la belle étoile la vie festive, leur vie festive, s'il faut le dire ainsi, bon, je crois que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais dans le sens que vous les mettez en n'ayant aucune mauvaise intention. Alors, pour la personne qui ne se trouve pas dans les mêmes conditions, il est toujours important de se connaître. Il est toujours important de se connaître. Il est toujours important de savoir qui l'on est, s'il faut le dire ainsi. Et dans ce sens-là, au moment où on se connaît, je pense que pour être influencé, surtout négativement, ça serait difficile. Ça serait difficile. Alors, voir que les autres sont en train de fêter, les autres sont en train de manger, les autres sont en train de boire, et moi, je ne suis pas dans ces mêmes conditions, ça ne peut en aucun cas frustrer au moment où on se suffit de ce qu'on a et de la personnalité qu'on incarne dans ce sens-là. Alors, il faut se connaître d'abord soi-même, pour ne pas être influencé, surtout négativement. Il faut beaucoup plus travailler ces côtés-là, parce que bon, la connaissance de soi, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très important, parce que au moment où on ne se connaît pas soi-même, facilement on se laisse influencer, facilement on se laisse comme ça, et puis bon, facilement aussi on peut se perdre. La connaissance de soi est très importante dans ce genre de situation. Parce que bon, ceux qui postent, ceux qui le font, bon, ils ne tiennent pas compte qu'il y a parmi nous, il y a tel ou tel autre qui va voir, il y a tel ou tel autre qui n'a pas fêté, qui ne se réjouit pas de la même manière que moi. Alors, s'il faudrait attirer l'attention, c'est beaucoup plus du côté de ceux qui voient et qui peuvent être influencés surtout négativement. Il faut vraiment travailler sur ce point-là pour que l'influence ne soit pas vraiment négative.
Merci. Oui. Alors, puisque vous parlez de l'influence, frère Ruffin, souvent quand on sort, même nous, quand on sortait avec les amis à l'époque, quand on fêtait encore, on fêtait vraiment, généralement dans chaque groupe, il y a deux tendances. Il y a des gens qui sont très chauds et d'autres, qui sont quand même timides et pouilleux. Alors, souvent, ceux qui sont un peu beaucoup fougueux, là, parfois, ils exagèrent, peut-être en fêtant, il y a peut-être des comportements déréglés qui vont avec. Comment peut-être être cette personne-là qui établit l'équilibre, non? Qui rappelle aux autres, non, ça, ne faisons pas, n'exagérons pas. Fêtons, mais bon, ça, évitons. Et comment peut-être aider les autres à revenir, à être beaucoup plus raisonnable, sans peut-être déranger l'ambiance de la fête. Parce qu'il y a des cas aussi, vous essayez de conseiller les autres, et après ils s'énervent, et ça dérange l'ambiance. Alors, sans déranger l'ambiance, comment on peut aider les autres, tout en fêtant, à rester sur le rail?
Merci, c'est intéressant cette question. Cette question a l'air facile, mais au fond, elle est difficile. Parce que chaque groupe, comme vous l'avez souligné, a sa façon de se comporter. Mais je voudrais peut-être rappeler une sagesse ancienne que les stoïciens s'en sont servis et puis tant d'autres personnes. De tout ce qui existe, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nous devons le faire. Ce qui ne dépend pas de nous, on observe. En dehors de cela, généralement, dans les groupes, surtout dans le contexte des fêtes, si vous vous mettez en...
Les groupes de jeunes.
Voilà, vous vous mettez en donneur de leçons, vous serez écarté.
Écrasé même.
Voilà. Et je ne pense pas que pendant la fête, c'est le moment opportun pour conseiller quelqu'un. Quand vous êtes déjà à la fête, commencer à conseiller, c'est très difficile. Là, oui. C'est très difficile. Très difficile. Alors, moi, je pense que d'abord, le préalable doit exister. Ça doit exister nécessairement. Donc, quand vous sortez, dans vos planifications, parce que quand vous allez fêter, il y a une planification. Et cette planification doit tout déterminer, doit déterminer vos activités. Et c'est sur base de cette planification, de ces plannings, que vous allez interpeller ou reprocher les autres. Ce n'est pas vous improvisez, vous planifiez, par exemple.
Non, ça ne fait pas.
Non, 25, vous planifiez 25 bières, 25 bouteilles par chacun. Et puis, tu arrives là-bas, tu trouves que l'autre s'est bloqué à la deuxième bière, tu commences à interpeller. On va te dire, non, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Voilà pourquoi la planification doit jouer un rôle importantissime.
Avant la fête,
oui. Pendant, ça serait tard. Ouais. Donc, avant la fête, planifiez tout, bien que l'improvisation ne manque jamais, mais au moins, dans la planification, soyez rigoureux. Donc, soyez rigoureux quand vous planifiez. Et aussi, n'allez pas dans des fêtes avec des préjugés, parce que quand on s'érige en donneur de leçons, on a des préjugés sur les autres, on pense que l'autre prend toujours beaucoup, l'autre ceci, cela. Alors, quand on arrive là-bas, au lieu de te réjouir, tu observes l'autre, il pose un petit acte, toi directement, avec tes préjugés, avec ta précompréhension, tu voulais directement réagir. Et cela casse l'ambiance. Voilà pourquoi je vais revenir au premier mot. Il faut que la planification soit rigoureuse. Et à partir de cette planification, vous pouvez trouver les éléments pour reprocher, pour interpeller. Mais tant que la planification n'est pas bonne, en tout cas, le reste sera du n'importe quoi.
Merci, merci frère Ifa. C'est très important ce que vous venez de dire. Parce que faudrait aussi reconnaître que ce n'est pas dans notre culture de planifier les choses. Les jeunes doivent aussi apprendre à bien préparer les choses. Préparez bien vos sorties, c'est important. Amusez-vous, mais faites bien les choses. Vous préparez par rapport au montant, par rapport au lieu, par rapport au contenu de la fête. Ça vous aide à bien faire les choses. Et après, vous pouvez aussi évaluer, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Le frère Ifé vient de dire, pendant la fête même, c'est difficile de s'autoproclamer comme état donneur de leçons. Ce n'est pas pendant la fête qu'on les fait. Avant, vous planifiez et après, vous pouvez évaluer. Ça, ce n'est pas toujours dans notre culture, cet aspect-là. Et ça, c'est très important que les jeunes qui nous suivent puissent aussi intégrer cet aspect-là. Et ça pourra aussi les aider dans d'autres domaines de la vie. Monsieur l'abbé, prêtre que vous êtes, on voudrait quand même que vous puissiez dire à nos jeunes l'essence des souhaits et des cadeaux. Ces derniers temps, on voit sur des statuts, WhatsApp et tout, Facebook. Ah, jusque-là, je n'ai pas encore eu des cadeaux, tout ça. Est-ce que moi ou quelqu'un me donnera les cadeaux ou bien l'Éternel et mon berger? Des choses un peu comme ça, on voit les gens qui postent. Mais quand même, le non-sens tue plus que l'autoroute, aime dire mon professeur Léonard Santé Dilabé. Il faut savoir donner sens à tout ce que l'on fait. Quel sens donnons-nous aux souhaits, meilleurs vœux, bonne fête, bonne année? Mais quel sens, quel contenu? Parce qu'il y a des gens qui souhaitent comme ça, qui ne savent même pas ce que cela veut dire. Quand on dit meilleurs vœux, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit bonne année, qu'est-ce que ça implique? Quand on demande des cadeaux, quand vous offrez des cadeaux, quand vous demandez des cadeaux, quand vous offrez des cadeaux aux gens, c'est avec quelle intention? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que il y en a qui ne se sont jamais parlé toute l'année. Mais le 24 décembre ou le 31 décembre, on souhaite à la personne avec qui on ne parle même pas meilleur vœu ou bonne année. À quoi ça sert? Quel sens donnons-nous à ces souhaits-là?
Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais ajouter quelque chose hein, sur la question des médias, si vous me permettez un peu rapidement.
Merci, pas de problème.
Je vais demander aux jeunes de quitter l'illusion, le monde de l'illusion. On utilise les réseaux sociaux aveuglément, surtout les jeunes. Les gens sur les réseaux sociaux, ils ne vendent que le côté bon, généralement, leur côté bon. Et peut-être même pas un côté bon. Vous voyez, avec tous ces TikTokers qu'il y a, il y a des gens, surtout à la fin de l'année ici et au début de l'année prochaine, n'est-ce pas, dans des festivités ici, qui vont vous brandir des repas somptueux, n'est-ce pas? Alors vous êtes d'une famille modeste qui vit, je ne sais, à Maluku ou à Nsele ou je ne sais d'où, avec des parents qui vendent. Vous allez, soit si vous êtes une fille, vous exposer à des pratiques sexuelles qui ne vont pas vous aider à bien vivre. Et si vous êtes homme, vous pouvez même aller voler seulement parce que vous voulez paraître bon sur les réseaux sociaux. Alors quittez cette illusion-là, ce monde d'illusions-là et des fantaisies, des fantasmes, ça ne va pas vous avancer. Soyez concret, contentez-vous du peu que vous avez. J'aimerais revenir à la question des vœux. Je pense que c'est dans la tradition, dès la tradition juive, hein, que nous avons hérité cette pratique-là. Vous allez voir déjà avec la liturgie du 31 décembre, hein, on demande de bénir, de se bénir dans la liturgie. Ces jours-là, il est prévu, n'est-ce pas, des bénédictions. Il faut que l'on puisse se souhaiter ou se bénir. C'est bénir,
dire de bien.
Bénir comme bénédictiere, donc bien dire les choses, c'est dire du bien, n'est-ce pas? C'est souhaiter le bien. Voilà, c'est de cette tradition-là, ou c'est cette tradition-là que nous avons héritée et qui continue, qui s'est sécularisée, parce que certains ne comprennent même pas ça. Alors, souhaiter du bien à l'autre, c'est pas mauvais, c'est bien. Et parce que nous tous, nous voulons que Dieu d'abord, au départ, il nous a créés pour le bien. Il ne nous a pas créés pour souffrir, il ne nous a pas créés pour mal vivre, il nous a créés pour le bien. Alors le mal, si je peux emprunter quelque peu le langage des philosophes, c'est comme les non-êtres, hein, quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Alors nous, dans notre, avec la sémence du bien que le Seigneur a jeté en chacun de nous, nous voulons que chacun puisse vivre, qu'il vive heureux, qu'il jouisse de la longévité, qu'il jouisse du bonheur qu'il veut. Alors, une année civile, c'est vraiment comme un processus. À la fin de cette année-là, on évalue. On s'est dit, peut-être il n'y a pas eu de bonnes choses. On ne voudrait pas que l'année passée ou l'année qu'on venait de passer soit la même. C'est pourquoi on souhaite du bien, n'est-ce pas, aux autres, afin que le Seigneur puisse les bénir, afin que leur séjour ici soit bon. Mais au niveau des cadeaux, bon, c'est une pratique. Hein. On l'a hérité aussi des Romains qui se faisaient trop des cadeaux. C'est pas mauvais, les amants, ils peuvent se faire les cadeaux, tout ça. Mais que les cadeaux ne deviennent pas, n'est-ce pas, les motifs ou les problèmes dans nos foyers, dans nos relations, à telle enseigne que si quelqu'un n'a pas de cadeau, alors la relation n'est pas bonne. Et à cette époque, il faut qu'on se le dise, hein, surtout les filles, les garçons, ils vont se tromper, beaucoup de mensonges, voilà, juste pour jouir des cadeaux. Il y en a qui vont utiliser le mensonge, ça c'est des choses vraiment condamnables, qu'on se souhaite du bien certes. Mais une chose, la dernière que je me rajoutais, c'est que dire à quelqu'un, bonne année,
joyeux Noël,
bonne année d'abord, par exemple ça, même joyeux Noël, ne veut pas nécessairement dire que pendant cette année-là, quelqu'un ne peut pas souffrir. Ça, il faut qu'on se le dise, parce que souvent, on pense que, hey, là, au début, là, on m'avait dit bonne année, mais cette année Oyo, ils ont bien été, et Simbananote. Mais non, ça ne veut pas dire ça. C'est un souhait. Un souhait peut être exaucé, peut être réalisé ou non. S'il est réalisé, Dieu merci. S'il n'est pas réalisé, on regarde devant, on avance. Voilà.
Dans l'espérance.
Dans l'espérance. Mmh. Dans l'espérance. Voilà ce que je peux dire à propos.
Merci. Merci, M. Labbé. Nous avons une question ici de notre frère. L'abbé Anissé Massaki qui nous pose une question. La dépravation de mœurs de la part de nos jeunes qui frappe en plein fouet notre société est-elle tributaire d'une éducation de base, sociale, scolaire ou académique? Quels sont les remèdes à envisager pour jugulée. Oh, l'abbé, il a servi cette crise. Merci, monsieur l'abbé Anissé. Nous allons essayer de vous répondre. Alors, la question concerne tous nos invités. Hein. Okay. Hein? Merci à l'abbé qui nous suit et qui a posé une question pertinente. C'est pas, le frère Ruffin va répondre.
Oui, merci. Je vais donner une part des réponses.
Ouais, peut-être
voilà.
Les autres.
Oui, les vôtres. Voilà. Lorsque nous étudions les lieux de l'éducation, d'abord nous distinguons l'éducation donnée à l'école, l'éducation du fils, l'éducation que nous ramassons un peu partout, ainsi de suite. Alors, ça serait trop osé dire que la dépravation des mœurs et tout comme ça viendrait au fait de quoi de l'éducation des bas, c'est-à-dire de la famille. La famille peut contribuer à cela, mais sans oublier que les jeunes aussi jouissent d'une liberté qui fait qu'ils peuvent aussi ramasser de n'importe où, par exemple par l'influence de son environnement, de ses amis, des gens qu'il côtoie à tout moment, parce que parfois ce que nous côtoyons ne nous laisse pas sans effet. Alors, c'est très difficile de dire que non, cette dépravation vient de telle ou telle part. Mais généralement, on demande à ce que les familles d'abord, qui sont comme notre base, qui sont en fait pas comme, mais notre base, notre matrice, de nous donner une éducation qui nous aide à lutter contre toutes les antivaleurs qui tombent de part et d'autre. Mais lorsque la famille est un peu incapable, parce que généralement les jeunes sont devenus parents des jeunes, alors ils n'ont pas eu suffisamment la formation pour être parents, alors quand ce qu'ils donnent, c'est tout ce qu'ils ont, peut-être c'est pas suffisant pour pouvoir épargner leurs enfants de tout mal qui vient de part et d'autre. Voilà pourquoi je dirais que on ne doit pas condamner la famille comme éducation de base, mais on peut demander à la famille d'intensifier, d'aller un peu au large avec l'éducation pour donner un peu de la matière à leurs enfants afin de lutter contre les antivaleurs auxquelles ils sont souvent exposés dans leur environnement.
Voilà. Merci frère Ruffin. Monsieur l'abbé. Vous suivez les cours d'agrégation, en fait. On vous forme à éduquer les jeunes. Je voudrais vraiment que vous puissiez répondre à cette question.
Ouais. Bon, merci. Je dis merci à M. l'abbé Anissé, je crois, de sa question pertinente. Et la responsabilité est partagée, hein, moi je dirais ça, parce que faut souligner, comme l'a dit mon prédécesseur, ceci que... les premiers acteurs de l'éducation sont les parents. Ce sont eux qui sont censés. Ils sont censés, ça ne veut pas dire, c'est déjà quelque chose de gagné en avance, hein, parce que ça peut arriver. On a grandi avec l'idée, quand on était enfant, on pensait que nos parents étaient automatiquement sains. Non, c'est pas ça. Ce sont des humains qui commettent aussi des erreurs. Un enfant peut aussi être issu d'une famille où injurier, c'est normal. Ouais. Et il voit comment papa, maman injurie et il prend et puis il continue. Ou voler, c'est papa va voler, il rentre à la maison, il donne à manger et c'est tout le monde qui s'habitue, n'est-ce pas? Et tout ça. Vous voyez, déjà à ce niveau-là, l'éducation de l'enfant, dès le bas âge, devient un tout petit peu comme ça. Mais il y en a d'autres qui sont issus de bonnes familles, mais quand ils sortent, n'est-ce pas, ils vont à l'école, ils vont trouver des mauvais compagnons, n'est-ce pas, qui vont leur dire, faisons l'école boussonnière, fuyons, allons manger malé ou akuna, allons faire ceci. Ça peut aussi influencer le comportement de quelqu'un. Ça peut être sur la route, il va au stade voir le match, il voit là-bas, on dit à quelqu'un, pèse à maman, bisous, et allons. Il trouve qu'on peut dire ça à quelqu'un comme ça, n'est-ce pas, ou sur le marché, quelqu'un est juré, alors il commence à s'habituer, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. C'est vrai, j'ai dit que la responsabilité peut être un peu partagée, ça dépend, c'est pourquoi j'exhorte les éducateurs, à commencer par les parents, n'est-ce pas, à faire preuve de bonne éducation, même si soi-même on a reçu une mauvaise éducation. Il ne faut pas montrer aux enfants, n'est-ce pas, les erreurs que nous commettons, parce qu'ils vont trouver ça normal et ils peuvent continuer et perpétuer ça. Voilà ce que je peux dire à l'abbé Anissé.
Merci. Il y a une autre question qui vient de David qui a couché. J'ai l'impression que c'est un élève, c'est un numéro inconnu et sur son profil, apparemment, c'est un élève. Bon, ça, chacun de répondre, je ne sais pas. Nous, les jeunes, nous sommes moins considérés dans la société. Et pourquoi on nous trouve moins sérieux? C'est pourquoi on nous trouve moins sérieux pour nous confier un travail à l'église. C'est-à-dire, c'est un peu un jeune qui se plaint, qu'on les considère moins serrés dans la société. Alors, c'est comme ça qu'on a du mal à les responsabiliser, même dans l'église. Ma sœur, surtout vous, religieuse, vous responsabilisez moins les jeunes. Il y a un élève qui se plaint, David, il se plaint. Il voudrait que vous puissiez répondre. Pourquoi vous ne les responsabilisez pas? Vous les trouvez moins sérieux ou quoi?
Non. Merci beaucoup, David, pour la question. Je ne pense pas que vous êtes moins sérieux. Et c'est pour cela qu'on refuse de vous confier des responsabilités dans l'Église. Ce n'est pas ça. Le problème qu'on trouve, on ne cherche pas à généraliser. Parce que toi, David, je sais que tu n'es pas moins sérieux.
Merci.
Déjà, c'est ça. Tu n'es pas moins sérieux. Mais on regarde comment est-ce que vous vous comportez dans l'Église. On remarque que dans l'Église, vous vous comportez autre. Et dans la société, en famille, dans les quartiers, vous êtes aussi tout autre. Alors nous sommes un peu dans la confusion. On ne sait pas est-ce que c'est le vrai David qu'on voit à l'Église ou c'est un autre David. C'est comme si vous menez une double vie.
Une double vie, oui.
Alors nous sommes un peu dans la confusion là. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes moins sérieux. Alors David, si tu veux qu'on te confie des responsabilités, il faut te comporter bien. Fais preuve de ce que tu es, que tu as reçu une bonne éducation, comme on venait de le dire. Si je peux ajouter quelque chose comme remède. Bon, les parents peuvent aussi à chaque fois rappeler les valeurs de la société, de la famille, tout ça, pour que les enfants avancent bien dans la vie. Et avec ça, on peut très bien vous confier des responsabilités dans l'Église et même dans la société.
Merci beaucoup, ma soeur. Frère Michel, un dernier mot. Soyez très bref parce que la sœur Gina nous fait déjà signe que nous sommes à la fin.
Oui, par rapport à...
Un dernier conseil par rapport à tout ce qui a été dit.
Bon, je voudrais d'abord évoquer la petite préoccupation de David, non? Comme ce que la sœur a dit, non? Alors, prouvez de quoi vous êtes capable.
Exactement.
Prouvez de quoi vous êtes capable pour qu'on ne vous sous-estime pas, s'il faut le dire ainsi. Si vous êtes conscient que vous avez réussi une bonne éducation et que les autres pensent que vous n'en avez pas, alors le mieux à faire, c'est montrer de quoi vous êtes capable. Prouvez le contraire de ce que les gens pensent. Alors, par rapport au souhait, à une question que nous avons déjà évoquée ici, je crois qu'il faudrait beaucoup plus être sincère dans les souhaits. Je voudrais évoquer un exemple beaucoup plus pratique, non? Les messages que nous envoyons. Vous allez voir sur WhatsApp, par exemple, les messages qui circulent de partout, transférés. C'est-à-dire que la personne sélectionne tout son répertoire, il envoie un message. D'abord, il ne sait même pas à qui il adresse le message. Alors, sur ce point-là, sur ce message-là qui est souvent transféré, je pense que le plus important, c'est d'être beaucoup plus honnête et sincère. Savoir au moins à qui on adresse le message, c'est très important. Les souhaits doivent aussi être sincères, d'une certaine manière. Ça ne signifie pas de faire les copier-coller et envoyer le message. Il n'y a aucune sincérité là-dessus. Parce que d'abord, c'est vrai que vous sélectionnez tout votre répertoire, il faut le dire ainsi. Mais vous ne savez même pas à qui vous avez envoyé le message. Vous, l'essentiel, c'est d'envoyer tout simplement sans pourtant vous rendre compte de la personne à qui vous avez adressé le message.
Merci. Monsieur l'abbé Taylor, en une ou deux phrases, un dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je voudrais encourager les jeunes, n'est-ce pas, à continuer, n'est-ce pas, à espérer en Dieu et à bien fêter, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils fêtent vraiment et en bien, mais surtout qu'ils évitent des excès et qu'ils fassent preuve de bonne éducation et aux parents aussi de veiller sur leurs enfants, de leur mettre, n'est-ce pas, les garde-fous pour qu'ils ne puissent pas exagérer parce que ce sont eux qui seront les premiers à payer le pot cassé. Voilà, et je souhaite aussi les meilleurs voeux à tout le monde.
Merci, merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci également à la sœur. Grand merci. Vous venez de loin et vous acceptez cet apostolat d'éduquer le jeune à travers ces médias traditionnels qu'est la radio. Merci à nos deux Pauliniens, les apôtres communicateurs, responsables de la revue L'Avenir, frère Michel et frère Ruffin. Au micro, vous avez suivi Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul, et à la régie, du côté technique, c'est la sœur Gina qui nous a aidés. Nous pouvons déjà vous souhaiter un joyeux Noël 2025 et pourquoi pas bonne année 2026. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois avec le même thème. Merci beaucoup et ciao.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Pour une formation intégrale de la jeunesse congolaise.
Pour la promotion des valeurs humaines, sociales, religieuses et culturelles.
Pour une jeunesse consciente, engagée et protagoniste du présent et du futur.
Suivez chaque samedi à 15h30.
L'émission Jeune pour Jeune
sur les ondes de Radio Maria
89.9 MHz.